Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Deuxième partie des Paroles Rurales, consacrée au GAEC du Massandral. Nous retrouvons donc Amandine et Baptiste pour une visite guidée de la brasserie de la Cossenarde. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Eh bien, bonjour. Donc, bienvenue au Massandral, à la brasserie La Cossenarde. Donc, je suis Amandine, et à côté de moi, il y a Baptiste, mon mari. Et on est tous les deux membres actifs au GAEC du Massandral.
Alors, je reviens quand même sur votre activité.
Oui.
Comment vendez-vous ? À qui vendez-vous ? Est-ce que ce sont les gens qui viennent vous chercher ? Est-ce que vous qui allez démarcher, peut-être au début ?
Alors non, on a... Je ne sais pas... C'est ça. Démarcher, on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas, moi, faire la commerciale. Je suis très mauvaise, d'ailleurs. J'ai l'impression d'aller mendier et de faire la manche. Et c'est assez horrible. Du coup, ça s'est fait tout seul. Ouais, oui. Non, mais... C'est le bouche à oreille. On a commencé par faire déjà le marché. Ça a commencé en 2008. Je ne sais pas pourquoi, j'étais attirée par ce côté marché. Donc, j'ai fait ma demande pour Sainte-Afrique et Millau. Après, on a fait des foires à l'Odève, où là, pareil, on a fait des rencontres, des gens qui ont des magasins de... C'était au tout début des magasins de producteurs. 2008, ça a commencé, il y en avait, déjà, mais ça commençait à vouloir démarrer un peu plus. Donc de là, on a rencontré des personnes qui tenaient des boutiques, qui nous ont dit, nous, on n'a pas de bière, ça serait cool. Donc on est rentré dans certaines boutiques. Derrière ça, des restos qui se sont dit aussi, nous, on fait une cuisine locale, on travaille des produits frais. Et au niveau des boissons, on veut aussi changer nos boissons, virer Heineken et puis la remplacer par une bière locale. Et la ferme aussi, bien sûr, l'été principalement. Et les marchés nocturnes, l'été. Donc c'est vrai qu'on a une grosse saison, nous, qui démarre, on va dire, de Pâques et qui se termine à peu près à la Toussaint. Et là, il faut...
Et le contact client, c'est quelque chose qui te plaît ?
Ah ben oui, forcément.
Ça t'apporte quelque chose ?
Ben oui, après, le contact client, aujourd'hui, je m'aperçois que dans mon métier, je dois faire plein de métiers. Donc à la fois un peu commercial, malgré tout, on y vient. Et puis, et oui, ça me plaît. Moi, j'aime ce contact-là. J'aime aussi, des fois, c'est pas très agréable. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, il y a des retours qui sont malheureusement négatifs, mais on fait face. Et puis,
Est-ce que vous produisez vous-même la matière première de votre bière ?
Donc, quand on a lancé l'idée de faire une bière, enfin une brasserie, donc en 2007-2008, Baptiste faisait lui déjà des petits brassins pour nous. Mmh. Et donc de là, on s'est dit, pourquoi pas en faire notre métier. La première année, on a acheté la céréale. Parce que déjà, on a trouvé une brasserie, par chance, qui cessait l'activité en Ariège. Donc du coup, quand nous, on a lancé le projet... Mes beaux-parents étaient un peu frileux, et je peux comprendre. Il y a 10-12 ans, dire qu'on fait de la bière, c'était un peu des projets baba cool. Moi, c'est l'année où je me suis installée, que je suis rentrée dans le GAEC. Quand je suis arrivée à la chambre d'agriculture pour dire que mon projet était une brasserie, ils m'ont regardé avec des yeux en me disant « Mais non, c'est pas possible,
ça marche pas,
il n'y a pas de petite case. »
Oui, on l'a pas.
Mais non. Et du coup, j'ai monté mon projet, on va dire, en brebis viande. Mais je les ai saoulés avec la bière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fallait présenter le projet, je mettais de côté la viande et je parlais de la bière. Mais ça n'a pas été chiffré. C'était impossible. Mais c'est pas grave. On l'a quand même fait. Donc, on avait derrière l'idée, cette céréale qu'on achetait. C'est plus facile de l'acheter entre nous. Hein. Franchement, on a un catalogue et ça coûte moins cher aussi.
D'accord.
T'as un catalogue, ça vient... Alors, en France, on est le plus gros pays exportateur d'orge brassicole.
D'accord.
La Bosse, je veux dire, on est les premiers, ça produit à fond. Hein. Mm-hmm. Pour la bière, petit rendement, c'est pas grave. Nous, il nous faut 15 tonnes d'orge. 15 tonnes d'orge, en soi, c'est un peu plus d'hectares parce qu'on ne traite plus. Donc forcément, pour avoir du rendement, tu travailles plus de surface. Mais en soi, ça représente, que je ne dise pas de bêtises, 6-7 6-7 hectares, maxi 10 hectares.
D'accord. Sur combien d'hectares en total ?
La ferme représente 330 hectares. D'accord. Voilà, j'arrondis. Hein. Sur ces 330 hectares, tout n'est pas, on ne peut pas tout travailler. On a 160 hectares de terre labourable.
SAU, comme ils disent, voilà. Surface agricole
utile. Après, Benjamin, il tourne, il y a des rotations de culture et compagnie. En céréales, ça représente, on va dire, entre 20 et 30 hectares par an. Parce qu'il y a une partie de l'orge qui part ici pour la brasserie, 15 tonnes. Mais après, en bas, les mémères, les brebis sont très gourmandes. Et il faut à peu près entre 70 et 100 tonnes d'orge pour nourrir notre troupeau.
Est-ce que c'est la même variété d'orge ?
Alors, on a trouvé la même. On s'est débrouillé, on est bien entouré par des techniciens qui ont compris un petit peu notre philosophie. Et toutes les orges qu'on sème à l'automne sont bonnes à faire de la bière, la pommelle. Ici, c'est compliqué. Ici, on est sur des orges d'hiver. Après, à force de chercher, on a trouvé. On a trouvé une variété qui va bien pour les brebis et pour la bière. Chaque année, on garde de la semence qu'on ressème à l'automne. La semence, elle s'épuise. Donc, tous les je ne sais plus combien d'années, on va acheter une nouvelle variété.
Et la récolte se fait au printemps ?
Non. La récolte d'orge, on moissonne avec le réchauffement climatique, c'est toujours de plus en plus tôt. En général, mi-juillet, fin juillet. Voilà, donc dès que le grain est prêt, là c'est parti, c'est assez rapide. On fait venir un entrepreneur et il vient et je veux dire, en une journée, il moissonne nos 20 hectares de céréales. L'orge en premier, et derrière, on fait pareil, un petit peu de blé, du seigle et de l'avoine. Parce que Baptiste, c'est un maître brasseur, il crée ses propres recettes. Et l'idée, c'est de... La bière, à l'origine, c'est principalement la céréale. Après, on rajoute du houblon, certes, qui va donner du goût. C'est un peu le sel et le poivre dans la cuisine. Et ça sert aussi de conservateur. On travaillera toujours avec du houblon. On n'est pas très gourmand en houblon, on travaille en petite quantité. Ici, il n'y a pas d'IPA, il n'y a pas de bière super houblonnée, qui sont super à la mode. Et du coup, on a nous-mêmes une petite houblonnière, mais qui est vraiment petite, on a 20 pieds. Mais bon, le houblon, c'est vraiment pareil, un boulot à part entière. Ici, nous, il nous faudrait une centaine de pieds pour voir plus. La force ici, c'est la céréale. On est producteur de céréales. Et pour revenir à l'orge, derrière, il y a du seigle, du blé, de l'avoine. Donc, Baptiste malte aussi toutes ces céréales.
Alors, les questions philosophiques ? Donc ça fait plus de 15 ans que vous êtes dans ce métier-là. Ouais. Est-ce que c'est un métier que vous conseilleriez à vos enfants ?
Mais
bien sûr.
On en rencontre, il y a des jeunes stagiaires qui viennent, on n'en prend pas beaucoup. Mais moi, les jeunes stagiaires, moi j'ai envie de leur donner l'envie de faire agriculteur. C'est magnifique l'agriculture. Après, malheureusement, elle a été un petit peu salie à un moment donné. Mais bon, on était bien contents après-guerre que l'agriculture arrive pour justement redonner à manger à tout le monde, à nourrir le peuple. Mais voilà, le port industriel en Bretagne, on ne peut pas leur en vouloir. Les anciens, ils utilisaient des produits dégueux, on ne peut pas leur en vouloir. Ils rasaient toutes les haies, on ne peut pas leur en vouloir. Enfin, je veux dire, c'était comme ça que ça se faisait. Et petit à petit, ça a changé. Il y a eu un changement.
Ils sont toujours adaptés à leur temps. Hein.
Oui, voilà, c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Et voilà. Il y avait un objectif à atteindre, il a été atteint.
Voilà. On leur tape dessus parce qu'il
fallait. Oui, voilà. Mais parce que maintenant, on sait certaines choses qu'on ne savait pas avant.
C'est ça. À l'époque, les représentants buvaient du Roundup pour dire.
C'est pas vrai.
Voilà, donc, mais ça a changé et puis ça change. Moi, je vois ici dans la région, ça bouge énormément. T'es plus trop fier quand tu sors ta cuve à désherber et que tu vas.
De toute manière. Tu fais cramer du plastique dehors.
Exactement, et du coup, c'est une philosophie. Et nous, on a cette philosophie. Alors, on n'est pas à 100%. On utilise de l'engrais parce qu'il faut de l'herbe à un moment donné. Donc là, Benjamin a fait rentrer de l'engrais bio. Certes, pourquoi travailler avec des semences bio ? Moi, des fois, on en parle entre nous. Mais moi, je suis en admiration devant la philosophie de mon beau-frère parce qu'il a ça en lui. Et nous aussi, on l'a. Et au final, on communique très peu. Mais on va dans la même direction parce que regarde la ferme. Enfin, regarde ce qui nous entoure.
Elle n'est pas dans la bosse ici, ça sert à rien.
Oui, c'est ça.
faut s'adapter au mieux. Et puis, il faut savoir, si on veut laisser la terre aux gosses aussi,
c'est ça.
Faut qu'elle soit en bon état.
C'est ça.
C'est l'agriculteur, il faut avoir la passion, il faut... Faut se lever le matin avec belle envie d'y aller et puis la niaque. Et alors c'est parfois compliqué, forcément
quand t'as mal partout et tout.
Eh ben.
Ouais, et sinon alors là je vous demandais de faire des perspectives. Vous qui êtes dans l'agriculture depuis pas mal de temps maintenant, est-ce que vous avez une idée de ce que sera l'agriculture dans 10 ans, dans 20 ans?
Moi, il y a de plus en plus de grosses fermes qui se montent autour de nous avec beaucoup de brebis, où on est plutôt sur le côté on veut du volume, et il y en a. Il y en aura, et c'est comme ça que ça se passe. Oui, après, il y a d'autres fermes, il n'y aura pas de repreneurs.
Il y aura de plus en plus de grosses fermes et de
plus en plus grandes, avec de plus en plus d'hectares.
Il y aura toujours le même nombre de litres de lait à la fin d'année.
Voilà.
Mmh. Avec beaucoup moins d'exploitation, beaucoup plus grosses. Ça, je pense, ça
après,
sera la tendance dans les années qui viennent.
Au niveau du côté Roquefort, on parlait par rapport au système laitier. Après, j'espère qu'il y aura toujours autant de jeunes farfelus qui viendront ici dans cette région agricole pour essayer de trouver un bout de terre et puis essayer de se lancer dans un petit système agricole. Alors, c'est pas facile.
Moi, j'ai eu plusieurs paysans qui m'ont dit que le fait que l'Aveyron ait autant de relief, que ce soit plutôt du petit parcellaire, ça préserve quelque part du gigantisme, par exemple, qu'on retrouve dans la Beauce et dans d'autres régions, c'est les plaines. Et ça laisse finalement la place à une agriculture un peu alternative, dans le sens où on ne va pas tous faire la même chose.
C'est ça. Oui. Non, mais c'est super diversifié quand même, dans notre région.
Oui, quand même. Ouais. Moi, je suis tombé sur des gens, ils font un peu de tout.
Tu fais le marché le samedi matin à Saint-Taf, il y a de plus en plus de producteurs.
Et de producteurs de choses différentes.
Et de producteurs.
Et notamment vous qui faites de la bière.
Mais t'imagines.
Vous sortez du modèle.
Mais franchement, le samedi matin, mais t'as de quoi remplir ton panier, quoi. Enfin, moi, je vois ce marché-là, jamais je l'arrêterai parce que y a quelque chose. Le samedi matin, il y a quelque chose. Tu vois les copains, tu rigoles, c'est un peu, je sais pas, c'est le moment un peu de détente. Tu viens travailler, mais tu viens aussi te faire plaisir. Déjà échanger, humainement parlant, troquer. Moi, je suis à fond pour le troc, et puis on échange énormément. Et puis tu reviens, ton panier... Déjà, mon propre panier à moi, et je fais mes courses, mais on se régale. Enfin... Nous, on mange super bien. Enfin, voilà, c'est important.
Ouais.
C'est super important. Et ici, il y a une richesse.
Ouais, c'est une qualité.
On a une qualité alimentaire, mais c'est incroyable. Et pas qu'alimentaire, après, humaine. Enfin, je veux dire, on est...
Ça,
on est bien.
On est pas mal.
Non, mais c'est vrai.
On est pas mal par ici.
Saint-Taf, pas trop se plaindre quand même.
Non, moi,
Millau, c'est un peu plus la ville.
Ouais,
c'est différent.
Pareil.
C'est bien aussi.
Ils sont gentils quand même.
Mais oui.
Hop là, j'ai failli marcher là-dessus.
C'est de l'orge qui germe.
Oui. De l'orge qui germe. Tu le mets là pour qu'il germe ?
C'est du malt, enfin, ça sera bientôt du malt.
D'accord. Il faut qu'il germe pour être maltais.
T'as les trois étapes aujourd'hui.
D'accord.
Le trempage.
D'accord. Alors, c'est une grosse cuve en inox d'une contenance de
1000 litres.
1000 litres, d'accord.
600 kg de céréales à tremper.
D'accord.
Donc, j'ai mis hier soir à tremper, j'ai vidé l'eau ce matin. Mm-hmm. Je vais remplir à 2h et vider ce soir. En fait, ça va envoyer la germination. Mm-hmm. À partir de là, ça germe. Mm-hmm. Pendant 5 jours, 6 jours.
D'accord.
Et après, on passe à côté. Troisième étape.
Et excuse-moi, la germination, tu le fais à un moment précis ?
Ouais, ou... plutôt l'hiver, ouais.
Plutôt l'hiver, d'accord. Mmh. Et tu fais en fonction de la lune ou pas ?
Non.
Bon, ok. Et la dernière étape, excuse-moi, je t'ai coupé.
Le touraillage.
Le touraillage.
Donc on coupe la germination par séchage en fait.
D'accord.
Donc c'est l'air chaud qui arrive par dessous. Ça va sécher la couche. Il y a une couche qui est comme ça. Uh-huh. Et l'air chaud va sécher la couche et stopper la germination.
D'accord.
Et à partir de là, c'est du malt.
D'accord.
D'orge, de blé.
Et c'est ça, que, c'est de ça, ça dont tu te sers.
C'est ça qui va faire la bière. Sinon, on ne peut pas faire de bière si c'est de la céréale crue.
D'accord. Donc une première fois, tu les fais tremper.
Trempage, germination.
Après, tu les laisses germer séchage. Et après, tu les fais sécher. Mmh. D'accord. Et ça se fait en combien de temps, un même lot ?
9 jours.
En 9 jours.
D'accord. J'ai 15 tonnes à faire.
Boulu !
Chaud.
Ouais, c'est tout chaud. D'accord. C'est à quelle température à peu près là ?
Là, je le monte jusqu'à 80 degrés.
80 ? Mmh. Voilà. Et ça, après, ça part au brassin.
Après, je le stocke dans la cellule.
D'accord, donc un gros silo.
Voilà, ouais. Et au fur et à mesure, ben, toute l'année, je vais prendre dedans pour faire mes bières.
D'accord. Et ça, c'est cette cuve rouge là.
C'est une cuve cambon, tout à l'heure, je vais dégermer en fait. Ouais. Je vais passer tout ça dans la vis.
Uh-huh.
La vis, il y a des trous dedans, ça va faire tomber les radicelles.
Ouais.
La machine bleue, ça va enlever toutes les poussières, tout ce qui est plus léger que le grain. Le grain va couler dedans. Mmh. Et après, ben, je l'envoie dans la
D'accord. Pose.
Et on ne peut ça pas l'utiliser de suite en fait, si tu veux, on le laisse poser 15 jours et...
Cette voilà. machine-là avec...
Un torréfacteur, c'est pour griller le malt.
D'accord.
Pour faire des maltes colorées, pour faire les ambrées, les brunes.
D'accord, là tu n'en mets pas beaucoup là-dedans.
Non, je mets 25 kilos.
25 kilos.
Ça c'est une fille pour un brassin.
Et quand tu les fais dorer, ça fait...
Plus
quand
ça
tu
va
les fais griller.
Plus ça va être foncé, plus on va faire des bières foncées.
C'est comme ça que tu fais des rousses, des ambrées, etc.
Tout à fait, tout à fait.
Le mieux, c'est de sentir.
Waouh, ça sent fort.
Ça sent le grillé.
Ça, je suis une ambrée.
Ouais. Voilà.
D'accord.
25 kg pour 200 kg, ça donne la couleur.
Tu peux le manger comme ça, là, la céréale ?
Oui.
D'accord. Surtout quand c'est torréfié, ça doit être bon.
Ouais, c'est pas mauvais. Ouais. Ouais, quand c'est grillé, ça sent comme dans les biscuiteries. Ouais.
Sors de là, t'as faim.
C'est ça.
Le fait de faire tout ce processus, c'est une bière fermière.
D'accord.
Pas une bière artisanale.
Alors en France, des paysans brasseurs, on en a rencontré 1, 2, 3, 4, 5. Et nous, grâce à l'outil ben, futur, on pourra peut-être faire un peu de maltage à façon pour les copains brasseurs qui sont autour. Pourquoi pas la brasserie du Larzac ?
Pourquoi pas,
pourquoi pas Mathieu à Saint-Aff ? Va t'en voir, pourquoi pas.
Voilà. Ça serait mieux que ce soit...
Voilà. Mathieu, d'ailleurs, Mathieu, si jamais...
si tu cherches du malt...
Ouais, et viens boire une bière, NC4.
D'accord, ben, je vais faire passer le message. Et je vois là-bas, donc, vous avez un petit bar. Vous proposez des dégustations ici ?
Tout à fait, aux gens qui veulent bien venir jusqu'ici.
Ouais. Ils viennent ici, donc ils peuvent vous prendre, vous acheter des bières.
Alors ici, c'est plutôt... Bon, on a bien ralenti la cadence, on va dire, de recevoir le public à la brasserie.
Et en plus, maintenant, il y a les histoires de distanciation sociale et tout ça.
Ouais, bon, ça s'est un peu calmé, là, on est dans l'hiver. Mais après, on a des petits habitués qui aiment bien venir. Là, c'est vraiment la période vraiment très, très creuse. C'est vrai qu'en ce moment, on voit pas grand monde. Mais après, dès que tu as les beaux jours... Oui.
On n'est pas paysan pour rien, on n'est pas là, on est pas en ville.
Non, mais on a fait le choix aussi de ralentir. Normalement, chaque été, on fait des visites le mercredi à partir de 17h jusqu'à 19h. L'été dernier, on les a toutes annulées parce que c'était déjà la rupture. Parce que c'est toujours pareil. C'est pas qu'on veut pas. Mais c'est vrai que quand tu y es, quand tu arrives le mercredi, soit tu es occupé de mettre en bouteille, soit tu files un coup de main à Benjamin et Marine parce que ce jour-là, je sais pas ce qu'il y a. soit tu as décidé d'aller te balader, d'aller faire un tour de vélo, d'aller faire autre chose, mais tu es contraint. Donc du coup, on a fait le choix de ralentir. Et après, il y a aussi du tourisme qui vient, ils arrivent, ils voient le bar, ils sont en terrain conquis, ils s'attardent. Ah ouais, on veut une bière et tout. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Ben voilà, ça c'est un truc, moi j'ai un peu du mal, où des gens arrivent, ils se croient déjà dans un bar, où moi je suis juste une barman. Non, non. Donc du coup, on peut continuer là.
Oui, continuons la visite.
La petite visite.
Avec le chien.
Oh ben oui.
Hein, ils en parlent pas une goutte. Oula.
Fais gaffe au trou.
Ouais.
Le bruit que tu entends, c'est la fermentation de la bière.
D'accord. Ah ouais, ça fait des bulles. C'est le gaz qui est produit par la fermentation.
C'est ça. Tu peux essayer.
Ça, c'est rigolo. Donc vous avez beaucoup de cuves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toutes n'ont pas les mêmes fonctions, j'imagine.
Voilà, il faut beaucoup de cuves pour arriver à faire une bière.
Donc c'est tous les queues de fermentation. Donc là, on va fermenter la bière.
D'accord.
Ensuite, là-bas, c'est un chauffe-eau, la cuve de brassage, la cuve d'ébullition.
D'accord. La cuve d'ébullition étant la plus grosse.
Oui.
C'est pas obligé.
Bon, il faut qu'il y ait 1000 litres. 1200 litres et 1000 litres.
D'accord. Ok. Et donc ça passe par ici, non. De la gauche à la droite.
Ça commence ici.
Ça commence avec...
T'as le maltage.
D'accord.
Ensuite, il faut concasser la céréale. On peut l'aplatir. Ensuite, il y a la cuve d'empâtage. Donc Baptiste va mélanger la céréale et l'eau. Et ensuite, il prend le relais, parce que ça devient technique.
Ensuite, donc, le but, c'est de transformer l'amidon en maltose. C'est le but du brassage. Donc quand on va mettre le malt d'orge dans de l'eau, à certaines températures, il y a des enzymes qui sont dans le grain d'orge qui vont transformer l'amidon en maltose, en sucre fermenté cible.
D'accord.
Donc après on récupère que le jus, donc il y a une filtration, on récupère que le jus. Toute la partie solide reste dans la cuve. Ensuite je vais l'envoyer dans la cuve d'ébullition. Faire bouillir pendant une heure et demie, mettre du houblon en début et à la fin. Ça va bouillir donc une heure et demie, après je vais la refroidir, c'est du mou en fait, du mou de bière. Refroidissement, queue de fermentation, la levure, et la levure va transformer le maltose en alcool, en gaz carbonique. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment.
D'accord. D'où le bruit.
D'où la fermentation.
Donc ce bruit-là, ça dit qu'il y a l'alcool qui est en train de se faire.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
C'est du CO2 et pour l'instant, il y a de l'alcool qui est en train de se faire.
Ok. Et après, comment tu le sors, la bière de là?
Avec des tuyaux et une pompe.
Des tuyaux qu'il y a par en dessous,
voilà,
une pompe, et tu l'envoies direct à la chaîne de...
D'embouteillage.
À l'usine.
Presque.
Ouais. Presque. Ah, il y a une étape avant.
Je la remets dans cette cuve.
Ah.
Je vais la faire chauffer, parce que quand elle fermente, là, après je la mets à 8 degrés, pour lui faire une garde à froid. Donc avant de la mettre en bouteille, je vais la réchauffer.
D'accord.
Y mettre un peu de sucre. Et après, ça part à l'embouteillage.
Ouais.
Et le sucre que je vais y remettre va faire les bulles et la mousse.
D'accord.
Parce qu'une fois qu'elle a fini de fermenter dans la cuve, elle est plate. Parce que tout le gaz
d'accord.
est sorti. Donc pour lui faire des bulles, on y remet un peu de sucre. Les levures ont remangé cette quantité de sucre. Et mettre la bouteille sous pression.
Le gaz carbonique dedans.
Sauf que c'est bouché. Ça,
bien rempli, bien grand mot.
Quel mot, peut-être pas.
La chaîne d'embouteillage.
Ah ben oui, c'est le mot chaîne qui te...
Ouais, c'est ça.
Voilà. Alors c'est très joli. C'est beaucoup d'inox avec des reflets irisés. Et donc là, il y a un tourniquet, on va dire. C'est là que tu as tes bouteilles.
La bière arrive par derrière, de la cuve que je disais tout à l'heure.
Oui.
Elle va remplir cette cuve. Là, on va poser les bouteilles. Ça va tourner. Donc les bouteilles vont monter, ça va les remplir. Elles vont ressortir de l'autre côté. Se faire capsuler.
Oui.
Continuer sur le tapis, se faire étiqueter derrière. Et après, on cartonne.
Et combien de bouteilles à la fois tu mets là?
16.
16. D'accord. Donc t'en mets 16, elles vont là, elles se déplacent, poum, elles se font capsuler. Ouais, j'imagine.
On fait 2000 bouteilles en 2 heures.
Avant, on mettait en bouteille avec une petite soutireuse 6 becs. On faisait une cuve où la bière était dans la cuve par gravité. Enfin bon,
ouais.
C'était
long.
Capsulage à la main. Enfin bon, c'était... Quand ça s'est arrivé...
On a changé la vie.
Travail, il est top du top.
Il faut que vous soyez plusieurs là, non?
Deux.
Deux.
Ah ouais. Et moi je suis derrière. Ouais.
Ouais, d'accord. Ouais. Tu fous un carton, après tu empiles le carton.
En deux heures et demie, t'as fait.
Ah ouais.
T'as mis 1000 litres en bouteille. Il y a 1400 petites bouteilles, 600 grandes bouteilles. Ça se remplit, ça se capsule, ça s'étiquette.
D'accord.
S'il n'y a pas de soucis, ça va très vite.
Ouais.
Et donc tu peux régler 33 centilitres, 75 centilitres. Ouais.
Hein. 50 aussi.
C'est la ça.
D'accord. Et 50 aussi.
Ouais.
Oui, ils ont pas faire toutes les bouteilles quand même.
C'est le top du top.
Ça, c'est un matos, c'est quoi? C'est
allemand. KTM.
Ils sont forts, ces Allemands, ouais. Pour faire les machines.
On a cette chance d'avoir tous nos fournisseurs et on essaye vraiment de travailler avec du local. Les cartons, c'est en bas à Millau. Mmh. Les bouteilles, bon, ben, ça reste. C'est pas français, mais le fournisseur est français. Après, ça. Ouais. Les étiquettes, on travaille avec Tecmé à Millau. Eux, ils sont pour l'étiquetage à Cahors. On arrive à.
À pas trop loin, quoi.
À pas trop loin.
Ouais.
Voilà. C'est un petit peu plus cher, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Travailler avec du chinois et
oui,
puis
voilà.
C'est pas cher.
Ouais. Que quand tu les appelles, ils sont jamais là.
Et voilà. Ouais. Bon, après, voilà, l'usine KTM, bon, ça reste en Allemagne. Ouais. Mais on a un commercial en France qui nous dépanne dès qu'on a une galère.
C'est
très rapide, c'est très réactif. On travaille aussi avec la Belgique aussi. Le houblon, ça reste du houblon français alsacien. C'est les
plus gros producteurs.
Ben ouais.
C'est assez récent, le houblon dans la bière. Hein. La bière existe depuis 8000 ans avant Jésus-Christ. Et le houblon, ça fait quoi, 300 ans dans la bière.
D'accord.
Avant, on mettait des épices, on mettait des aromates pour masquer le goût dégueulasse de la bière.
Le goût amer.
Et du coup, le houblon, était à la base, il mettait ça comme un antiseptique. Hein.
D'accord.
Le houblon a des vertus antiseptiques. Ouais. Donc ça gardait la bière.
Après, il y a du houblon sauvage, partout, en Aveyron.
Ah.
Et bien sûr.
Bon, là, encore faut-il savoir, on le reconnaît.
Eh bien, maintenant que nous, on le connaît, donc on le reconnaît. Il y en a un, quand tu pars à Sainte-Afrique, au croisement de Saint-Paul-des-Fonds, là, il y a un petit pont.
Ouais, ouais.
Et chaque année, il est magnifique.
Il roule. Câble et il s'enroule dessus.
Ah ouais, d'accord.
Ouais,
et
ouais.
Puis dans l'eau.
Son père, quand il se balade, vu que papy il est tout le temps en train de balader, enfin pas tout le temps, mais bon, il ramène une fois, il avait la voiture remplie du houblon. Tiens, je te ramène du houblon. Le problème, c'est que c'est bien spécifique. Pourquoi nous, on travaille avec du houblon qui est fait par des vrais houblonniers? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des degrés alpha, que chaque houblon a une propre vertu et va apporter quelque chose à la bière. Aujourd'hui, les houblonniers, ils s'éclatent et ils arrivent à faire des houblons avec des arômes d'agrumes, de citron, de pamplemousse, enfin c'est des trucs extraordinaires. Et nous là, on a trouvé nos houblons qui vont bien ben, pour nos bières. La blonde, elle va avoir son houblon, l'ambrée, elle va avoir son houblon.
D'accord.
Chaque style de bière a son propre houblon. Voilà.
Super. Merci beaucoup.
Ouais. Bah, avec grand plaisir, on va consacrer une grosse bière. C'est pas trop tôt, pas trop tard, non?
Un grand merci à Marine, Amandine et Baptiste pour leur bienveillance et leur pédagogie. Les paroles rurales sont diffusées les mardis à 8h10, jeudi à 18h et dimanche à 14h et sont disponibles sur le site de radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.